Prêt Santé avec les sociétés Sunwa Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Sunwa Assurance. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Ce 26 juin est placé sous le signe de la Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue. Le terme d'abus est jugé ambigu, y compris par l'Organisation mondiale de la santé qui préfère plutôt parler d'utilisation dangereuse, nocive ou non conforme. Car consommer une substance psychoactive peut avoir un effet recherché en termes médicaux pour traiter, pour soulager certaines affections. Mais lorsque cette consommation devient préjudiciable pour la santé, les complications sont souvent multiples, tant du point de vue physique, psychique que social. Un pacte global qui peut nécessiter une prise en charge tout aussi complète lorsque l'usager de drogue souhaite renoncer à son addiction de gré ou parce que son état de santé est tel que toute autre issue lui serait fatale. Vaincre la dépendance, cela nécessite une prise en charge complète, holistique, que proposent certaines structures. Et précisément aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous vous proposons de nous arrêter dans deux de ces centres de prise en charge pour illustrer concrètement ces initiatives, ces projets médico-sociaux destinés aux usagers de drogue. Nous allons nous arrêter d'abord en Côte d'Ivoire, à Abidjan, en compagnie de David Bachet, qui va nous permettre de rencontrer les différents acteurs soignants patients qui évoluent au sein du centre d'accueil et d'accompagnement de soins en addictologie, le CASA, qui a ouvert ses portes sur place il y a plus de 2 ans. Avant ce centre, une autre structure avait fait figure de précurseur en Afrique de l'Ouest. Cette structure, c'est le CEPIAD, premier centre spécialisé dans le traitement des addictions dans la sous-région. L'équipe de Priorité Santé s'est rendue à plusieurs reprises à la rencontre de son équipe et nous avons choisi aujourd'hui de vous ouvrir à nouveau notre micro. Docteur Idrissa Ba, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes psychiatre au CHU de Fannes, addictologue, coordonnateur technique du Centre de prise en charge intégrée des addictions de Dakar. Ensemble, je vous propose d'écouter ce reportage de David Bachet au CASA d'Abidjan. On va se retrouver juste après pour savoir si chez vous, à Dakar, docteur Idrissa Ba, eh bien la prise en charge a évolué, si le centre a développé de nouveaux projets et quelles sont aujourd'hui vos attentes. Ce sera donc juste après ce reportage.
Priorité santé sur RFI.
Alors c'est donc en Côte d'Ivoire que vous nous proposez tout de suite de partir. David Bachet, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Pour Abidjan, pour visiter un centre de prise en charge d'usagers de drogue, centre qui fonctionne selon un schéma un petit peu particulier, dans la mesure où si l'accueil est bien sûr assuré par des professionnels du secteur médico-social, eh bien David, ce sont également d'anciens usagers, voire des personnes qui sont encore en cours de sevrage, qui travaillent aussi sur place. Centre CASA, David Bachet, vous vous y êtes rendu pour nous il y a quelques mois de cela.
Oui, alors c'est une visite que j'ai même effectuée en janvier dernier, avant donc que le coronavirus ne bouleverse l'actualité et du coup tous nos plans.
Alors on le précise d'entrée, hein, David, parce que c'est cette actualité qui explique que nous ayons dû repousser sa diffusion de ce reportage. On va donc à la rencontre de celles et de ceux qui animent et qui sont pris en charge aussi au sein de ce centre, de cette structure.
Oui, et ce centre, il s'appelle le CASA. Alors ça peut vouloir dire maison, ça signifie surtout centre d'accueil et d'accompagnement de soins en addictologie. Il a ouvert en août 2018, il y a presque 2 ans, dans le quartier de Koumassi, au cœur d'Abidjan. Le CASA est géré par Espace Confiance, une ONG ivoirienne de santé et de développement, avec le soutien de l'ONG française Médecins du Monde. Et c'est donc un centre destiné aux usagers de drogues dites dures, comme l'héroïne, le crack ou la cocaïne.
Avec cette spécificité, David Bachet, c'est l'approche communautaire, c'est-à-dire l'implication directe des populations cibles, d'usagers, d'ex-usagers de drogue, qui assurent par exemple l'accueil des bénéficiaires.
Exactement. Ils sont une quinzaine, des éducateurs pairs ou pairs éducateurs, c'est comme cela qu'ils se désignent. Ils sont bénévoles. Et avant d'aller plus loin, Caroline, je vous propose d'écouter l'un d'entre eux. On va l'appeler Jérémy. Alors pour ne pas exposer les personnes qui ont accepté de me raconter leur histoire, nous avons décidé de ne pas donner leur vrai nom. Jérémy, donc, a 48 ans, dont près de 30 passés à consommer de l'héroïne et de la cocaïne. Il m'a expliqué comment il était devenu éducateur.
J'ai commencé par être accueilli d'abord par d'autres pères. Ça m'a rassuré tout de suite. Il suffit d'un coup d'œil, tu sais que le gars, il consomme. Donc, ça m'a rassuré. Je sais que je ne suis pas dans une structure où il serait stigmatisé. Et s'il y a des pères, c'est que ça va aller.
Et vous avez eu envie de faire pareil?
Oui, j'ai eu envie de faire pareil.
Aujourd'hui, du coup, qu'est-ce que vous faites auprès des personnes qui viennent ici?
Bien, je fais de la sensibilisation, je les conduis. Il faut faire ici, il faut prendre son bain d'abord avant d'aller faire son pansement. Ne pas se déshabiller pour se promener dans la cour. Et puis après cela, les sensibiliser sur le VIH, sur la tuberculose et puis sur les hépatites. Ce matin, par exemple, j'ai sensibilisé particulièrement sur les hépatites.
Et vous-même, ça vous fait du bien? Ça vous a aidé depuis que vous êtes là à réduire votre propre consommation?
Oui, énormément. Parce que avant, je consommais au moins en moyenne 10 mèches par jour, 10 mèches d'héroïne, au moins 3 à 4 cracks par jour.
Pipe de crack.
Oui, pipe de crack par jour. Mais aujourd'hui, je suis à 5% de ma consommation. Et je passe beaucoup de temps là. Ça fait que je n'ai pas la tête à ça. C'est une façon de s'occuper l'esprit.
Et ce parcours de Jérémy, on peut même parler de ses progrès. On vient de l'entendre avec cette baisse de consommation. Eh bien, ça intervient après un cheminement douloureux et même parfois, on peut employer, David, presque le mot chaotique.
Oui. Alors, comme tous ceux qui sont accueillis dans le centre. Du coup, de sa première prise à son arrivée au CASA, le centre d'accompagnement, eh bien, Jérémy m'a raconté son parcours. Écoutez-le.
Ce qui m'a fait entrer dans la consommation, c'est mon divorce. J'ai été abattu, j'ai pas eu de soutien autour de moi. J'y suis allé et arrivé là-bas juste.
Arrivé là-bas, c'est dans les fumoirs.
Dans les fumoirs. Donc j'ai goûté à l'héroïne. Alors, le premier jour, bon, je me sentais bien, c'était la découverte, c'était bien. Mais près d'une semaine après, quand j'ai voulu arrêter et puis commencer une autre vie, c'est là que je me suis rendu compte parce que le syndrome de manque a commencé à me fatiguer. Les autres consommateurs m'ont dit, écoute, ça c'est le syndrome de manque. Il faut juste fumer un peu et c'est parti.
Et là, c'était le cycle infernal qui commençait.
Voilà, le cycle infernal qui commençait.
Et qui s'est arrêté où alors?
Au CASA. Qui s'est arrêté au CASA. Parce que je suis sûr d'une chose, je vais finir par arrêter. Il faut qu'on soit décidé dans la tête. Donc le soir, je vais aller au ghetto, fumer pour 500 francs, juste pour 500, aller pouvoir dormir. Me relever le matin, faire au moins 3 semaines dans ça. Et puis maintenant, je vais commencer à mettre des intervalles de jours. C'est-à-dire, je fume aujourd'hui, je ne fume pas demain, ainsi de suite. Et puis, je vais arrêter.
Et on l'entend, elle est bien là, cette volonté d'arrêter. C'est bien évidemment l'objectif de ce centre, du CASA, David, accompagner ces usagers à arrêter leur consommation de drogue.
Bien sûr, c'est ça qu'on appelle le sevrage. Mais il y a le sevrage physique, mettre fin à la sensation corporelle du manque, et il y a le sevrage psychologique. Et c'est sans doute ça le plus difficile. En tout cas, c'est ce que m'a expliqué Raphaël Kissi. Il est psychologue clinicien au sein du CASA.
C'est pas parce que la personne est venue au centre que tout va finir en même temps. C'est dans le temps. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Quelles sont les ressources dont dispose la personne?
Financièrement, psychologiquement?
Toutes les ressources. Nous, le travail que nous faisons, c'est un peu plus comment travailler sur les stratégies pour lutter contre la rechute. Parce que le sevrage physique n'est pas la partie la plus compliquée, mais plutôt le sevrage psychologique. Comment faire pour ne plus reconsommer? Souvent, on invite les familles parce que le client vient pour peut-être une heure de temps avec nous. Mais après ça, il retourne dans son environnement habituel.
Et les familles, en général, elles acceptent de suivre votre démarche et d'essayer de les aider?
Ça va toujours évident d'associer la famille, vu le contexte ivoirien. En Côte d'Ivoire, quand on dit drogue, c'est tout ce qui est mauvais, banditisme, braqueur. Donc, souvent, la famille, au lieu d'avoir peut-être un comportement protecteur, constitue un facteur d'aggravation de l'addiction.
Depuis que vous travaillez dans ce centre, est-ce que vous avez eu la chance de voir que, votre travail a servi à quelque chose, lui, il a arrêté? Est-ce que vous avez des choses comme ça qui vous encouragent?
Merci pour la question. C'est vrai, très souvent, on me demande, est-ce que vous n'avez pas beaucoup de frustration? Mais nous avons des points de satisfaction, parce que quelqu'un qui était dans la rue et qui retourne en famille, et que la famille même se déplace pour venir nous féliciter, je pense que c'est déjà bon.
Vous l'entendez, le rôle de la famille, quand elle accepte de s'impliquer, est vraiment primordial. Et le psychologue Raphaël Kissi attire aussi notre attention sur un problème, sur le principal problème, en fait, que rencontrent les usagers de drogue, c'est la stigmatisation.
Et David, c'est vraiment ce que vous avez perçu en échangeant avec ces bénéficiaires accueillis au sein de ce centre. problème absolument fondamental, la stigmatisation.
Oui, c'est même généralement par ça qu'ils commencent. C'est ça qui leur fait le plus de mal. Et celui qui me l'a le mieux expliqué, c'est Mike. Il a 45 ans. Quand je l'ai interrogé, ça faisait à peine 3 mois qu'il fréquentait le centre d'accueil. Il raconte tout le bien que ça lui fait d'y être traité tout simplement comme un être humain.
Quand ils venaient ici, ils sont à Kenya, on nous considérait comme des hommes. Sinon, au Dieu, on nous considérait comme des drogués. Les gens nous agressent. Nous, on n'a pas force, on est des malades. Les gens, quand on passe dans la rue, tous les gens comme ça viennent nous frapper parce qu'on a fait la trop forte. Tout le monde nous voit en tant que drogués. On pense que nous, on est criminels, on est agresseurs, on tue. Mais c'est un petit truc qui se passe, on dit que c'est nous. C'est les drogués là. Ok, c'est pas nous. Nous aussi, on est des humains. Et on nous prend de ça comme des hommes. On n'est pas des animaux. C'est à cause de ça quand je suis arrivé ici, ils m'ont bien accueilli. Quand je me réveille la nuit, mon corps, tout me fait mal. Je bave beaucoup. Je suis venu voir Madame Doté, amener un compte de comprimés. Chaque une semaine, je viens me contrôler.
Quand vous venez ici, vous passez combien de temps dans ce centre? Vous faites quoi?
On veut se reposer ici. On mange souvent, on mange. Les vendredis, ils ne peuvent pas manger pour nous. Laver nos vêtements, les habits.
Donc là, le t-shirt que vous portez, vous l'avez eu dans le centre?
Oui, eu dans le centre. Même le pantalon.
Priorité santé, à l'occasion de la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue, nous parlons aujourd'hui de la prise en charge des usagers de drogue à travers deux expériences développées en Afrique de l'Ouest. Et nous retrouvons les acteurs du centre d'accueil et d'accompagnement de soins en addictologie d'Abidjan, où David Bachet s'était rendu en tout début d'année. On vient d'entendre un bénéficiaire, Mike, évoquer les difficultés face à la stigmatisation, ce que ça change d'être vraiment bien considéré dans une structure à la hauteur. Et vraiment, c'est un sentiment très fort sur place, David Bachet, des usagers de drogue qui se sentent jugés et mal perçus.
Oui, et cette question de la stigmatisation, c'est aussi une problématique centrale pour l'assistante sociale du centre d'accueil. Elle s'appelle Michèle Vanier. Elle est l'une des toutes premières interlocutrices des usagers lorsqu'ils se présentent dans le centre d'accueil. Et elle aussi m'a décrit cette stigmatisation dont sont victimes les usagers, de la part de leur famille, de la police, et même parfois de la part des travailleurs sociaux ou médicaux qui sont justement censés les aider. Michèle Vanier nous parle donc aussi de son propre cheminement. Écoutez.
Quand j'ai débuté ici, vraiment, j'ai peur. Et arrivé ici, je vois des personnes que je n'arrivais pas à côtoyer au marché, dans les boutiques, donc j'avais peur de les approcher. En ce moment, je n'ai pas encore fait la formation RDL.
Mais la formation
RDL, c'est la réduction des risques. RDL. Voilà. Donc après cette formation, ça m'a encore ouvert les yeux. Et quand je suis rentrée le soir, il suffit juste peut-être de les voir dans les rues. J'ai un amour vraiment très grand pour eux. Et à la maison, je disais, ah, voici là où je travaille maintenant. Quand on me dit, ah, telle personne est droguée, je dis, non, on ne dit pas droguée. C'est juste une personne qui a des difficultés avec la consommation de trucs qu'il prend. Ne les voyez pas comme ça. Ils ne sont pas violents. Ils ne sont pas aussi méchants que ça. Et j'essaie de parler à mes entourages, à mes amis, à la famille, que voici là où je travaille. D'autres me demandent, ah, ils ne t'agressent pas. Je dis, non, je me mets au bureau avec eux. Je les vois partout et je les salue comme toute autre personne.
Du coup, votre travail, il est ici dans le centre, il est aussi à la maison, il est aussi dans la rue. Vous n'arrêtez jamais.
Pas toi avec moi. Je n'arrête pas mon boulot. J'aime ce travail. J'adore les aider, j'adore les écouter. Vraiment, ce sont des personnes aussi qui réfléchissent tout comme nous-mêmes. Il y a des personnes qui ont master en informatique. Il y a d'autres qui sont vraiment très intelligents. Moi, j'adore les écouter.
C'est vous qui êtes accro, en fait.
Ouais, je suis accro de...
Et on perçoit en tout cas une très forte implication, plus qu'un métier, c'est un véritable engagement.
Oui, à ce niveau, on peut même dire une vocation. En tout cas, Caroline, vous avez entendu le lien fort, l'attachement qui se crée entre les personnes qui accueillent et les usagers. Par exemple, Paul, 57 ans, lui, il se drogue depuis de très longues années. S'il est venu au centre, c'est d'abord parce qu'il avait des blessures, des plaies, et qu'il avait besoin d'être soigné. Le résultat, c'est qu'un mois plus tard, il fréquente toujours le centre, et ça lui donne même déjà des idées.
Je consomme l'héroïne, je consomme aussi de l'herbe. Depuis 86, j'étais un accro, Voilà les traces d'injection ici.
Oui, on les voit, les cicatrices sur vos bras.
Voilà, vous voyez, j'ai diminué complètement.
Les conseils que vous avez reçus au centre ou les gens que vous avez rencontrés ici, est-ce que ça vous a aidé à ralentir?
Ça aide beaucoup. C'est les gens que je vois même, comment des jeunes gens se sont retrouver aplati. Mais moi, je dis, mais moi, je suis un vieux consommateur, mais pourquoi? C'est moi qui dois donner conseil à ceux-là. Mais voilà encore là-dedans avec eux. Donc, j'ai même plus envie encore, quoi. Quand je vais dans les ghettos, même et que je vois les plus jeunes fumer, et que moi, je regarde depuis quand j'ai commencé à fumer, que celui-là n'était pas encore né. Et ça me fait trop mal d'être au même point d'égalité que lui aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'eux ne me voient pas fumer.
Vous ne voulez pas leur montrer ça?
Non, mais ça fait honte, vous voyez, quoi. Ça me gêne beaucoup.
C'est peut-être ça la bonne motivation pour arrêter.
C'est une des motivations, sinon il y en a plusieurs. Ma santé même là, elle est la plus grande motivation.
Sa santé, la plus grande motivation de Paul. Quant à Mike, eh bien il en a une autre, et lui aussi est bien décidé à s'en sortir. Dans le centre d'accueil, on lui a proposé des pistes pour aller de l'avant.
Ils ont parlé beaucoup de trucs. Si on a arrêté la drogue, ils ont commencé à prendre nos papiers pour faire nos pièces.
Des pièces d'identité.
Des cartes d'identité, cadeaux pour nous. Si on a fait nos papiers et puis nous donne du travail, pour nous aussi là, on arrête, banditisme domine dans la rue, arrêter un peu la drogue.
Vous avez compris à quoi pouvait ressembler une vie normale, si normal, je peux dire comme ça?
J'ai envie de changer même ma vie. Moi, j'ai 3 enfants, un garçon, 2 filles, mais à cause de la drogue, j'ai honte à aller les voir. Moi, je veux changer ma vie.
Et pour conclure, David, vous avez donné la parole au directeur de l'ONG Espace Confiance qui gère ce centre d'accueil.
Oui, le docteur Camille Anoma, médecin spécialiste en santé publique. Alors, il ne compte pas s'arrêter là. Des projets sont à l'étude pour ouvrir d'autres centres sur le même modèle dans d'autres régions de Côte d'Ivoire. Surtout, le docteur Anoma mène un travail de plaidoyer auprès des autorités. Une loi est en cours d'écriture et ce que souhaite le docteur Anoma, fort de son expérience dans le centre, c'est privilégier une approche d'aide et de soins plutôt qu'une approche répressive qui criminalise d'office les usagers de drogue. On l'écoute.
Dans la situation actuelle, la détention de la drogue est criminalisée. C'est-à-dire que si on vous trouve avec de la drogue, vous irez en prison parce que c'est ce que dit le code pénal. Alors tout le travail qui est fait en amont, ce serait de faire en sorte donc que cette loi évolue et que finalement, on est plutôt de l'injonction thérapeutique à la place de la détention.
Ça veut dire pour les usagers de les forcer à se soigner plutôt que de les emprisonner.
Voilà, ça permettrait bien sûr, nous, d'avoir un meilleur accès à ces usagers et leur donner des services qui soient adaptés. La loi telle qu'elle existe aujourd'hui fait que beaucoup d'usagers se cachent. La répression qui est faite, donc le fait de fermer, de casser les fumoirs, etc., ça devient une entrave pour nous. On a davantage de difficultés pour aller toucher.
Un dernier point éventuellement, c'est la légalisation de traitements de substitution pour les usagers.
Clairement, les dispositions ont été prises au niveau étatique. Il y a une volonté clairement affichée pour que un certain nombre d'usagers de drogue puissent avoir accès aux traitements de substitution. C'est une décision qui a été prise.
En clair, c'est la méthadone.
Voilà, en clair, c'est la méthadone. Et on pense que la loi aussi permettrait finalement aussi à des personnes qui sont des usagères de finalement aller vers ces centres qui sera la structure qui sera censée faire les premières ordonnances pour les usagers.
Et c'est donc avec ce plaidoyer du docteur Camille Anoma de l'ONG Espace Confiance que se conclut votre reportage dans ce centre d'accueil de Koumassi à Abidjan. Merci infiniment, David Baché.
Merci à vous, Caroline. Et merci encore à tous ceux qui ont accepté parce que ce n'était pas facile de témoigner à mon micro.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
Témoignages et paroles qui doivent vous ramener forcément à votre propre expérience. On vous retrouve donc en ligne de Dakar, docteur Idriss Saba. Je rappelle, addictologue, coordonnateur technique de ce centre de prise en charge intégré des addictions de Dakar, premier centre érigé au cœur même du CHU de Fane. Alors, on relève les traits communs avec votre propre expérience. Et à ceci près, c'est très loin d'être anecdotique. Contrairement à vos confrères d'Abidjan, vous, votre équipe de Dakar, elle dispose de l'autorisation pour distribuer aux patients cette méthadone. Évidemment, pas question de réduire votre activité à cela. Mais docteur Idriss Saba, peut-être pour expliquer aux auditeurs, quand on parle de substitut, qu'est-ce que ça veut dire?
Merci beaucoup. Substituer, c'est mettre un médicament à la place d'une drogue illicite. Donc, il s'agit d'un médicament qui est connu sur le plan pharmaceutique, sur le plan pharmacologique, qui doit remplacer la prise illicite de drogue.
Qui remplace parce que ça n'a pas les mêmes inconvénients, notamment en termes de fréquence de prise et en termes de dangerosité pour le corps.
Pas du tout. Et il y a 2 médicaments de substitution qui sont disponibles au niveau mondial. C'est la méthadone, mais aussi c'est la buprenorphine au dosage, plus connu sous le nom de Subutex.
De Subutex.
Au Sénégal,
c'est la méthadone.
C'est la méthadone. Nous avons opté pour la méthadone pour plusieurs raisons. D'abord, par rapport au coût, mais aussi par rapport à la facilité de la prise.
Justement, expliquez-nous, docteur Bach, comment se déroule la distribution, la dispensation et qui en sont les bénéficiaires?
Ben, pour la dispensation de méthadone, ça répond à tout un protocole, à tout un processus de suivi, ça démarre par l'accueil, mais aussi par l'évaluation du patient, l'évaluation sur le plan médical, l'évaluation sur le plan social, parce qu'on a vu que beaucoup d'usagers, quand même, on a parlé tantôt dans le reportage de stigmatisation, de rejet, etc. Donc, c'est des gens qui vivent vraiment dans une grande précarité, mais aussi d'évaluation sur le plan addictologique. Il s'agit de déterminer quelle est la substance qui est en cause. Et concernant la méthadone, c'est surtout pour les consommateurs d'héroïne ou d'opiacés de façon générale, parce que de plus en plus, en dehors de l'héroïne, nous avons mis dans le programme des gens qui consomment par exemple du tramadol, qui sont des opiacés aussi.
Justement, vous me permettez de faire le lien avec cet appel que nous avons eu d'un auditeur. Il s'appelle Jean-Pierre. Il nous a laissé ce message du Togo. Et je vais vous proposer, docteur Idriss Abba, d'écouter le message qu'il a laissé sur le répondeur de Priorité Santé. Il y a non seulement son témoignage, mais aussi une question qu'il vous pose.
Bonjour madame Caroline, c'est Jean-Pierre, je viens du Togo. De mes amis et moi, nous étions en train de faire une conversation sur les drogues dures et on a parlé du tramadol. Pour mes deux amis, le tramadol est un produit très efficace, vraiment très efficace, parce que ça leur permet d'être très endurant pendant toute la journée. Quand ils le prennent, ils peuvent travailler du matin au soir et ils s'adonnent à des doses un peu plus lourdes, parce que des fois ils prennent jusqu'à 4 voire 5 doses, 5 en même temps à la fois. Et je voudrais savoir si ce produit n'a pas un impact négatif sur leur santé, parce qu'ils m'ont conseillé de le prendre, et étant donné qu'il y a Priorité Santé qui passe sur les bandes des RFI tout le temps, j'ai dit je vais poser cette question pour voir si je ne suis pas en danger si je consomme trop. Merci.
Alors on entend plusieurs choses dans ce témoignage très intéressant de Jean-Pierre, docteur Idriss Abba. La première chose à l'écoute, on va dire, c'est la banalisation. C'est que pour certaines personnes, et bien pour certains jeunes hommes en particulier, prendre du tramadol, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que vous leur répondez?
C'est tout à fait grave, d'autant plus que c'est pris en automédication, donc en prescription médicale. Et c'est un produit qui est largement disponible. Et ce tramadol qui est pris dans la clandestinité, dans le marché noir, ce n'est pas du tramadol médical. C'est du tramadol qui est fortement dosé. Moi, j'ai fait le Togo. C'est du tramadol dosé à plus de 200 mg, 225 ou même plus. Donc ça expose aussi, il y a le problème de la dépendance, mais surtout le problème de l'overdose. Donc effectivement, c'est un produit qui peut poser beaucoup de problèmes au niveau sanitaire.
Pour bien expliquer, en fait, c'est un médicament, un antidouleur qui est détourné de son usage. Qu'est-ce qu'on peut répondre justement aux auditeurs, docteur Idriss Abba, qui disent, puisque c'est un médicament, c'est pas dangereux, on peut en prendre, c'est exactement l'inverse. Ne prendre un médicament quand on n'a pas eu de prescription, c'est très dangereux.
Absolument, c'est très dangereux. D'ailleurs, c'est un antidouleur, mais un antidouleur de palier 2. Dans les antidouleurs, il y a ce qu'on appelle le palier 1, le palier 2 et le palier 3. Et le tramadol est intermédiaire. Donc, c'est un produit qui est addictogène, donc qui peut entraîner la dépendance et qui aussi, s'il y a abus, pour poser des problèmes de santé, effectivement. Donc, ne pas prendre ce produit hors prescription médicale.
Alors, au Sepia, on croise beaucoup d'hommes. Hein. C'est l'une des caractéristiques, on va dire, du profil de vos patients. Docteur Idriss Abba, est-ce qu'il y a, par exemple, des caractéristiques communes dans les personnes, les usagers de drogue qui viennent vous voir pour essayer de décrocher, en termes d'âge, en termes d'expérience de vie?
Tout à fait. Si vous venez au Sepia, c'est que vous marquer, d'abord par rapport aux patients, c'est des hommes. Deuxième chose aussi, c'est ils sont d'un âge mûr, au-delà de la quarantaine. Ce qui fait qu'il y a une population que nous ne voyons pas au CPIAT, mais que nous voyons aussi en dehors du CPIAT. Ce sont les jeunes, c'est une catégorie sociale que nous connaissons sur le terrain, que nos équipes qui se déplacent sur le terrain, parce qu'en dehors de l'équipe du CPIAT, nous avons une équipe de terrain aussi qui va sur le terrain, qui va les rencontrer, qui aussi les oriente vers le CPIAT. Mais ils ne viennent pas parce que tout simplement, il y a ce regard social aussi, il y a la loi aussi qui fait que c'est des gens qui, s'il s'agit des jeunes qui sont au début de leur parcours, ils ont tendance à se cacher.
Alors justement,
les femmes aussi se cachent parce qu'elles ne veulent pas être identifiées et reconnues.
Alors, il y a cette approche communautaire, on va dire, on va au cœur de la communauté pour toucher les personnes les plus éloignées du système de soins. Vous disiez justement sur le cas de ces femmes, déjà quand nous vous avions rendu visite, il y avait peu de femmes, difficile de les faire venir. Il y a aussi la question des travailleuses du sexe qui sont donc difficiles à atteindre. Est-ce qu'il y a une amélioration de ce côté? Est-ce qu'on arrive mieux à prendre en charge les femmes usagères de drogue?
Oui, il y a une petite évolution parce que nous avons aussi développé des stratégies pour pouvoir les toucher, pour pouvoir les recevoir. Mais jusqu'à présent, la fréquentation n'est pas encore si optimale que ça. Par exemple, pour toucher les femmes, ces travail du sexe dont vous parlez justement, nous avons démarré des sorties nocturnes avec un partenaire qui nous appuie pour faire des sorties la nuit. C'est des patientes que nous rencontrons sur le terrain, que nous orientons au CPA. Je pense que nous devons avoir des créneaux ou bien des centres qui s'adaptent par rapport au mode de vie aussi de ces femmes qui travaillent la nuit et qui dorment le jour, soit sous forme d'équipe mobile en tout cas, qui se déplace la nuit, qui va les rencontrer, qui leur propose des soins, mais aussi développer des centres qui peuvent travailler au-delà des heures habituelles de fonctionnement.
Davantage de flexibilité. Alors, on parle justement de cette implication au sein de la communauté, votre centre avec beaucoup de ressources, intégration psychosociale aussi au travers d'ateliers. On vous avait donc rendu visite il y a exactement 2 ans, hein, précisément. Petit retour en arrière avec cette visite d'un atelier en extérieur, activité occupationnelle, c'est le nom qui est donné chez vous. Et pour nous guider, Bosso Bayangfal, qui était à l'époque surveillante au CEPIAD.
C'est le micro-jardin, l'activité où il y a Madame Ba qui est la responsable, hein, de tout ce qui est activité et micro-jardin. On va aller voir Madame Ba. Bonjour Madame Ba, comment ça va? Présentez-vous, venez.
Bonjour Madame Bousso. Je vais vous faire visiter, vous ouvrir les plantes, comme ça vous allez regarder par vous-même.
Enfin, il y a du persil,
l'épinard.
Épinard.
Ça fait quelques jours, parce qu'on venait juste de récolter. Pendant le mois de Ramadan, on a beaucoup récolté. Ça, c'est des épinards.
Qui travaille ici sur ces plantations avec vous?
Ce sont les usagers qui sont là. Voilà quelqu'un qui est là.
Bonjour.
Bonjour, maman.
Alors, vous faites du jardinage ici avec Madame Ba?
Oui.
Oui. Le matin, vous venez prendre votre méthadone et après, vous faites le jardinage ici?
Oui, maman.
Le matin, il vient prendre le méthadone et on passe la journée ensemble ici.
Ici, vous travaillez avec des personnes qui sont d'anciens usagers de drogue, qui sont sous méthadone. Est-ce qu'avant, vous aviez un regard sur ces personnes? Est-ce que votre regard a changé en travaillant avec eux?
Bien sûr. Parce qu'avant, on ne savait pas grand-chose. On pensait que c'était leur faute, ils voulaient être des voyous. C'est à force d'être avec eux qu'on arrive à les comprendre, qu'ils ont des problèmes et qu'on doit les aider à s'en sortir. Parce que par exemple, celui-là, il était marié, il avait de l'argent, il travaillait, il avait tout. Mais avec la drogue, il a tout perdu. Il a perdu sa femme, ses enfants. Alors, il est seul maintenant, tu vois. Alors, en le regardant comme ça, comment ne pas l'aider? Parce qu'on sait que celui-là, il en a besoin. Et si on lui donne un coup de main, il peut s'en sortir. Et c'est ce qu'il a décidé. Parce que pour s'en sortir, c'est à eux de décider. On ne peut pas les obliger. Moi, je n'oblige personne à venir ici au champ. Ici, pour travailler avec moi. Non, on me demande, je dis non, laissez. Si celui, quelqu'un veut vraiment faire quelque chose, il va venir tout seul. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Il n'y a pas que deux. Alhamdoulilah. Dieu merci. Il a commencé à travailler, ses parents l'apprécient, ses frères, ses soeurs, et il est bien.
Donc vous avez un sentiment de réussite?
Bien sûr, parce que je l'ai fait avec 2 personnes. Et la troisième personne, c'est avec celui-là.
C'est vos stagiaires?
Ouais. J'ai décidé de m'en sortir avec lui. Ça, vraiment, c'est quelque chose que je veux faire.
Ça fait plaisir à voir.
Ouais, ouais. Ça fait plaisir de voir quelqu'un qui était vraiment perdu, repêcher quelqu'un. Et le reprend.
Un petit flashback, juin 2018, l'enthousiasme de Madame Ba, reportage réalisé par Richard Rifono pour bien faire comprendre la multiplicité. Ils sont nombreux, vos champs d'intervention également. Toujours avec vous, docteur Idrissa Ba, il y a de l'ergothérapie, il y a du travail manuel, il y a des groupes de parole. C'est important justement de proposer tout un panel d'activités.
Absolument, c'est très important. Nous, ce qu'on dit, c'est une prise en charge globale. Et dans cette prise en charge de patient, il est au cœur du dispositif. C'est au patient de pouvoir dire, de pouvoir négocier ce qu'il veut faire. Et nous l'accompagnons. Toutes ces activités que vous avez vues lors de votre passage, c'est sur la proposition des patients et on essaie de développer ces activités. Au-delà du jardinage que vous avez vu, il y avait d'autres ateliers, vous avez parlé des groupes de parole, mais aussi il y avait l'atelier couture, il y avait l'atelier aussi d'alphabétisation qui était une demande, l'atelier d'informatique, etc. Toutes ces activités, nous les avons développées et ça crée un bien pour ces patients qui avait vraiment adhéré. Bon, maintenant, les choses ont beaucoup évolué. Le CPAT, au début, c'était quelques patients, mais maintenant, on est à plus de 2000 patients. Vous voyez, tout ça, c'est encore difficile à gérer, comme au début. Et il s'agit aussi que le CPAT aussi a connu quelques problèmes de dégradation du bâtiment, ce qui fait que, bon, nous avons externalisé. Il y a beaucoup d'activités que nous avons arrêtées parce que nous avons externalisé nos activités médicales. Pour l'instant, il n'y a que le jardin qui marche comme activité de convivialité. Ensuite, le Covid est venu aussi aggraver les choses. Ce qui fait que, bon, nous avons quelques difficultés à continuer les activités. Ce qui fait que nous avons dû nous adapter dans le but de protéger les patients, mais aussi de protéger le personnel, l'équipe. Mais avec l'aide des autorités et de l'administration, nous avons eu des équipements qui nous permettent maintenant de reprendre ces activités, surtout en dehors du CEPIAT. Et nous avons aussi décentralisé. Depuis un an, nous avons ouvert d'autres structures en dehors de Dakar, à l'hôpital psychiatrique de Tiaroy, à Mbour aussi, qui se trouve à 90 km de Dakar, à Kaola, qui se trouve à 200 km de Dakar. Donc, et nous sommes en train d'explorer aussi à Ziguinchor et à Djoubaïs.
Donc ça, ce sera très intéressant de vous rendre visite dans ces différentes structures. On a bien compris, hein, donc il y a différentes activités, même si certaines sont un petit peu mises entre parenthèses à cause de l'actualité ou de problèmes de bâtiments. On soigne la dépendance, on soigne les corps aussi parfois, parce qu'il y a beaucoup de comorbidités, avec, on le comprend bien sûr, un effort très important pour limiter les risques de contamination à l'infection VIH-SIDA notamment. Les patients, ils doivent aussi s'occuper tout ça simplement de leur santé.
Absolument, ils ont beaucoup de problèmes de santé parce qu'ils ont une longue pratique de consommation avec des modes de vie très précaires qui font qu'ils sont exposés à plusieurs pathologies, notamment le VIH, vous l'avez cité, mais il y a aussi la tuberculose, il y a les hépatites, d'autres problèmes, des problèmes oculaires, ils ont beaucoup de problèmes de dents, beaucoup de problèmes visuels aussi. C'est pourquoi nous avons vraiment senti la nécessité d'avoir un médecin généraliste au niveau du centre qui peut s'occuper du corps. Il faut s'occuper de l'aspect psychologique, bien sûr, la dépendance, etc. Éventuellement, les problèmes psychiatriques, psychologiques, les problèmes sociaux. Mais aussi, le corps aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est pourquoi la présence du médecin généraliste est très importante pour nous. Et ils sont orientés dans les services si les ressources ne sont pas disponibles.
Alors, il y a des mots qu'on entend beaucoup hein, quand on vous rend visite, docteur Idriss Abba. C'est les mots de confiance, de bienveillance, et puis de l'autre côté, la stigmatisation. Lutter contre la stigmatisation à l'encontre des usagers de drogue, c'est l'une des bases. D'ailleurs, on a entendu tout à l'heure notre guide dans le jardin de votre centre dire que son regard avait changé. Même chose tout à l'heure dans le reportage de David Bachet à Abidjan. Au début, certaines personnes viennent travailler avec des préjugés, des idées préconçues sur ceux qui prennent de la drogue. Et puis, en les côtoyant, eh bien, on change d'opinion et puis on comprend que finalement, ce sont des personnes comme les autres, des personnes qui ont un problème de santé, un problème d'addiction.
Absolument. C'est un combat de tous les jours qui n'est pas gagné à l'avance. C'est la stigmatisation. C'est un problème qui est là depuis le début et qui reste. Mais là, il faut les approcher, il faut être avec eux pour vraiment comprendre que cette stigmatisation-là constitue vraiment un frein à la mise en charge. Un frein à la réinsertion. Et cette même stigmatisation produit derrière aussi ce qu'on appelle de l'auto-stigmatisation. C'est-à-dire que même l'usager a une très faible estime de soi du fait du regard des autres. Vous voyez, c'est comme un cercle vicieux qui fait que la personne va être exclue de la société et ne pourra pas. Donc c'est un combat de tous les jours qu'il faut mener, cette stigmatisation, pour pouvoir approcher ces gens, pour pouvoir leur proposer aussi des services auxquels ils ont droit. La santé, c'est un droit. Et je pense qu'ils ont droit à la santé.
Tout à l'heure, on a eu l'illustration en Côte d'Ivoire. On a pu voir justement une autre forme de prise en charge. Est-ce que précisément d'autres confrères d'Afrique de l'Ouest viennent vous rendre visite pour comprendre comment ça se passe chez vous? On va dire simplement, est-ce que le CEPIAD est devenu une forme de modèle régional?
Absolument. Nous avons reçu beaucoup de collègues de la région. Nous avons aussi appuyé certains pays pour pouvoir aussi développer ce modèle, notamment la Guinée-Bissau, le Bénin, le Togo et le Nigeria. Il y a beaucoup de pays qui sont venus vraiment visiter le modèle du CEPIA. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger dans la région, au niveau de la région. C'est un peu lent, mais quand même les choses sont en train de bouger parce qu'il y a un regard qui est déjà changé. Je vois que même le Ghana a modifié sa loi, etc. Et au Sénégal aussi, on a fait des propositions pour réformer la politique. Parce que tout le problème aussi, c'est la loi. Parce que tant qu'on n'aura pas réformé les politiques de drogue, ce sera très difficile de pouvoir entreprendre quoi que ce soit.
Parce que la répression conduit à l'isolement des personnes qui deviennent encore plus difficiles à atteindre pour être soignées.
Absolument, la répression constitue vraiment un grand handicap pour le travail que nous sommes en train de mener pour lutter contre la stigmatisation, mais aussi pour faciliter l'accès aux soins et aux services.
Alors, coopération, on l'a bien compris, sud-sud, interrégionale, et en termes de partenariat avec les pays du Nord, est-ce qu'il y a justement des relations établies entre le CEPIAD, certaines capitales, certains établissements hospitaliers?
Oui, tout à fait. Le CEPIAD, s'il existe, c'est parce qu'il y a eu un partenariat nord-sud, d'abord, et un partenariat sud-sud. Nous avons des liens avec le centre... le SAPA Moro de Tours en France, mais nous avons aussi établi d'autres partenariats. Mais je pense que ce qu'il faut, c'est essayer de renforcer, développer encore ces partenariats. Il y a un temps, nous avons été appuyés pendant 2 ou 3 ans par la mairie de Paris. Mais en France aussi, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, ce qui fait que, bon, actuellement, il y a un petit relâchement, mais nous souhaitons vraiment renforcer et développer encore ce partenariat nord-sud, mais aussi, surtout sud-sud. Aussi, nous avons beaucoup travaillé avec le Maroc, par exemple. Si vraiment le CEPIAD est là, c'est parce qu'on a travaillé avec le Maroc. Mais cette expérience du CEPIAD, que le CEPIAD a engrangé aussi depuis 5 ans, nous souhaitons aussi le partager avec d'autres pays de la région et au-delà de nous.
Alors, ce sera ma dernière question en vous présentant. J'ai cité vos spécialités, psychiatre, addictologue. Alors aujourd'hui, docteur Idriss Abba, est-ce que l'addictologie, c'est une discipline qui commence à être mieux connue, davantage enseignée dans la région?
Oui, absolument, c'est de plus en plus connu. D'ailleurs, on ne parle même plus de toxicomanie, etc., mais on parle de patients addicts, on parle des addictions, etc. Et à Dakar, nous avons aussi, au niveau de l'université chez Ante Diop, la faculté de médecine, ouvert un diplôme universitaire d'addictologie. Donc, les choses commencent à bouger. Nous avons aussi développé des modules avec le Conseil national de lutte contre le sida, des modules aussi sur les addictions aussi pour former les intervenants de terrain, les travailleurs sociaux, etc., etc., les pères éducateurs pour les former.
Docteur Idriss Abba, c'est matériel, mais c'est loin d'être un détail. Quand on était venu vous rendre visite, il y avait un gros problème de bâtiment. D'ailleurs, vous l'avez expliqué tout à l'heure, ça empêchait la tenue de certaines activités. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que le CEPIAD est redevenu le CEPIAD?
Non, c'est toujours, les travaux n'ont pas encore démarré. Donc, tant que ces travaux-là n'auront pas démarré, ce sera très difficile de maintenir toutes les activités que nous avons. Et ça, nous en appelons encore aux autorités, mais aussi à nos partenaires qui nous ont appuyés, qui ont permis la mise en place du CEPIAD. Il ne faut pas que ce CEPIAD-là que nous avons mis en place, il ne faut pas aussi qu'on perde tous ses acquis. Ça demande beaucoup d'efforts. Et il faut vraiment qu'on essaie de maintenir ces acquis que nous avons obtenus avec l'implantation, la mise en place du CEPIAD.
Ben j'espère qu'avec ce que l'on vient de dire, tout le monde sera convaincu. Les bonnes personnes à l'écoute sauront vous donner un coup de main. On vous remercie beaucoup. Hein, merci de nous avoir accordé de votre temps pour répondre à nos questions dans Priorité Santé. Docteur Idriss Abba, je rappelle que vous êtes psychiatre au CHU de Fan, addictologue, coordonnateur technique du CEPIAD. Très bonne continuation dans tous vos projets.
Merci à vous, Caroline. Merci à toute l'équipe de RFI.
On change de rythme à présent dans Priorité Santé parce qu'on va se donner le temps de nous écouter, de respirer. Et comme chaque semaine désormais, c'est en votre compagnie, docteur Adrien Chaboche. Bonjour.
Bonjour, Caroline.
Docteur Chaboche, psychothérapeute, médecin au centre Vitruve à Paris. Et vous nous accompagnez justement pour respirer pour ce moment de relaxation. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez nous proposer ?
Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble la question du choix. Parce qu'on a plein de choix à faire tout le temps, toute la journée. On est bombardé de choix même. Tel point que parfois, on est tellement épuisé, tellement stressé, qu'on ne sait même plus faire un choix. On est comme bloqué dans l'indécision. C'est très inconfortable.
Alors, on va se mettre justement par contre dans une position, j'imagine, confortable. Quelle posture pour cette séance ?
Alors, vous pouvez être aujourd'hui, cette fois un petit peu éventuellement, si vous êtes un peu demi-allongé, ça va. Ou assise, ça va aussi, bien sûr. Un peu détente, tranquille, pour relâcher un peu toutes nos contraintes. Et simplement, vous allez choisir l'une de vos mains. Et la main de votre choix, c'est celle qui est associée que... par intuition, comme ça, vous vous dites, c'est celle qui est l'hésitante, celle qui est j'avance, je recule, je sais pas trop. Hein? On en a tous une. Ça peut être votre main motrice, ça peut être l'autre, vous voyez. Et vous allez la positionner, ce que je vous propose, à une dizaine de centimètres de votre jambe, au-dessus. La paume vers la jambe, le dos de la main vers le haut. Un peu en équilibre comme ça. Voilà, exactement, Caroline. Mm-hmm. C'est tout à fait ça. Voilà. Vous êtes prête ?
Oui, je suis prête. Ça y est, la main est juste au-dessus avec un petit espace entre les deux.
Voilà, exactement. Et maintenant, alors, je vous propose que, là, volontairement, vous allez fermer les yeux. Mm-hmm. Et on va respirer une ou deux fois, tous ensemble. Alors, sans chercher à bien respirer, parce que déjà, bien respirer, c'est de se dire qu'il faut y arriver, que non... Non, juste simplement, on va laisser les poumons faire pour vous ce qu'ils savent très bien faire. Parce qu'on s'en remet en fait à notre corps, votre corps, le corps de chacun de nous, va nous aider, et c'est ça qui est agréable, à trouver, à nous guider vers ce qu'il faut pour une décision que vous allez prendre. Peut-être déjà... À cette idée de la décision, vous êtes déjà en train de penser à une de ces situations. Peut-être qu'elle vous prend la tête, peut-être qu'elle est très présente, peut-être que c'est dans la journée ou une décision pour plus tard. Mais elle vous tourmente, ces choix qui sont devant vous, on ne sait pas trop. Et en même temps que dans votre esprit, alors cette question prend place, votre conscience... guidé par ma voix, vous accompagne à remarquer votre main, à remarquer la position de la main dans l'espace, un peu en équilibre, ni trop lourde, ni trop légère. Vous sentez peut-être sur le dos de la main comme des petits picotements, ça peut arriver, des effleurements, à moins que ça ne soit dans le creux de la main, une sensation présente. Et votre conscience, elle, remarque ces sensations corporelles, tandis que nos pensées qui résonnent dans notre esprit, dans notre boîte crânienne, dans notre tête, je fais pas, j'hésite. Et maintenant, c'est cette respiration, cette détente que vous connaissez de mieux en mieux. Et votre attention à vous-même, car vous vous connaissez aussi de plus en plus. Et en vous connaissant de plus en plus, vous remarquez ces signaux sur votre main. Est-ce que c'est le dos de la main vers le haut ? Ou bien est-ce que c'est la paume de la main ? Peut-être il vous semblera déjà que quelque chose s'est produit, on ne sait pas quand, mais vous le remarquez maintenant, comme si la main... était comme posé sur quelque chose. On aurait cette sensation, vous voyez, si c'est comme un coussin, un moelleux. Mm-hmm. Voilà, exactement, Caroline, voilà. Pour d'autres auditeurs, ça sera peut-être le dessus de la main, comme s'il y avait un effleurement comme si on avait une sorte de légèreté sur le dessus de la main. Et alors, ce qui va être très intéressant, et chacun, cela va être différent pour chacun de vous, vous allez sentir quel mouvement va guider votre conscience. Ça va être assez étonnant, mais vous remarquez comme peut-être certains d'entre vous, peut-être vous, Caroline, vous avez à sentir la main qui va se diriger, qui va être attirée vers la cuisse, vers la jambe, ou là où était votre main au-dessus de votre corps. Peut-être d'autres, au contraire, vont sentir comme une légèreté de plus en plus qui élève, qui attire vers le haut. Comme s'il y avait des petits ballons qui étaient accrochés au bout des doigts et qui levaient la main, ou comme un léger courant ascendant. Et c'est amusant et c'est intéressant en même temps d'être guidé par cela. Au début, c'est peut-être un mouvement, un petit sursaut d'un doigt. On s'étonne, on se dit « Tiens, mais comment c'est possible ?» Mais oui, c'est tout à fait possible, car c'est votre corps, ce sont vos ressources. Ça fonctionne, on y est. Ça se met un peu plus en mouvement. Et maintenant, en observant votre mouvement à chacun individuellement, très légèrement ou un peu plus, de plus en plus parfois, et vous remarquez que de ce mouvement d'une partie de votre corps, comme si on se déplaçait dans un paysage, maintenant, vous voyez votre question d'un autre point de vue. On en ressent comme si on s'était saisi d'un objet, mais dans une autre position. Comme si on entendait d'une autre oreille. Vous observez vos changements guidés par le mouvement qui vous convient. Voilà, accompagnez-le, c'est très bien. C'est étonnant et c'est très bien. Et on sent cette ampleur du mouvement à l'intérieur de la main, dans le bras. Peut-être maintenant ça glisse jusque dans l'épaule, dans le reste du corps. Et peut-être même jusque dans votre esprit maintenant. Voilà, exactement. Très bien. Et vous aurez alors peut-être déjà consciemment, comme quand on est guidé par un courant, par le chaud ou le froid, par on sait, on sent, c'est par là qu'il faut aller. Et si ça n'est pas conscient, alors faites confiance à vos ressources profondes qui vont vous le montrer dans la journée. Il y aura cette bonne direction qu'a suivi votre main. On s'ouvre, on se retrouve. En tout cas, le mouvement est présent. Ayez confiance, on y est. Et comme dit l'expression, je reprends la main et vous reprenez la main, Caroline. Et c'est notre nouveau repère d'aujourd'hui.
Et c'est le moment justement de reprendre la parole aussi pour vous remercier, docteur Adrien Chaboch. Merci beaucoup de nous avoir permis de partager ce moment de détente, c'est pas toujours évident d'en sortir. Et ben voilà, c'est fait. Merci beaucoup et à très bientôt dans Priorité Santé.
Merci Caroline, vous pouvez y rester encore un petit peu, on est autorisé.
Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. À Cétoussa Maquet, Ophélie Lassen et Didier Bleu. Lundi, c'est Igor Strauss que vous retrouverez à ce micro pour une émission consacrée à la prévention des risques sanitaires en voyage ou en vacances. Restez à l'écoute de RFI et prenez soin de vous.
C'était Priorité Santé avec les sociétés Sounois Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Sounois Assurance. Sounois Assurance, notre métier, l'assurance. Édition spéciale, second